Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle visite radiophonique avec Caroline Entrecq du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Et le Pays d'art et d'histoire, Nelly Lafont est là avec nous du Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Alors on va aller où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui on repart dans le Val d'Aunaise et on va voir un château qui s'appelle le château de Montialou.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entrecq.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Après un peu de route, on vient d'arriver au château de Montialou, enfin du moins en bas du château. Explique-nous comment on vient de Mande, Nelly.
Alors on est sur la commune de Saint-Bosile, donc pour venir depuis Mende, on prend Balsièges et on poursuit sur la RN 106, et en fait on voit des ruines qui se détachent sur un abrupt du Cos, c'est le château de Montialou, donc on le voit très bien depuis la nationale. Il faut juste prendre un petit embranchement après la patte d'oie, on va dire, pour aller vers Saint-Bosile et monter, voilà.
Allez, mais là on est en bas, on le voit sur les hauteurs, c'est enneigé. Mais on va prendre notre courage à deux mains, hein, Caro, et on va y aller. Allez, Caro, ça monte un petit peu, mais pas trop, hein, c'est difficulté, même avec de la neige, assez facile. On arrive en haut et on voit un peu devant nous, on voit quoi ? Explique pour nos auditeurs qui ne sont pas ici avec nous.
Alors là, on est sur la cour du château de Montialou et on a face à nous un panorama assez beau sur tout le Val d'Aunaise et le paysage qui nous entoure. Alors, la route qu'on a prise auparavant, la RN 106 n'existait pas et tous les accès se faisaient plutôt par la crête, donc par le Cos Sauveterre qu'on a juste derrière. Ici, on est un petit peu à cheval entre quatre entités paysagères. On a donc le Val d'Aunaise face à nous, le Cos Sauveterre derrière nous, le Cos de Mende sur notre gauche et le Mont Lozère un petit peu plus loin en face. Et bon, encore un peu plus loin, quand on continue, on est sur le col de Montmira, et là on bascule sur la vallée du Tarn. Donc on est un petit peu à un emplacement stratégique, à cheval entre différents territoires. Ce qui est assez intéressant, et ce qui explique certainement la position de ce château à cet endroit-là. Donc face à nous, on voit du coup une large cuvette qui a été creusée dans le calcaire et les marnes. On voit dépasser le truc de Balduc. Donc qui est qui a été dégagée par l'érosion, et c'est ce qu'on appelle une butte témoin. Voilà. On voit toute cette plaine qui est très agricole, qu'on appelle bocagère. Ce qu'on appelle des bocages, donc c'est les haies d'arbres et d'arbustes qui viennent entourer comme ça les parcelles, et c'est un espace très fertile, ce qui explique l'implantation humaine sur ce territoire depuis très longtemps. Et on devine les différents villages du Val d'Aunaise qui sont implantés en fin de pente, mais pas sur le replat, vraiment au tout début de la topographie. Donc sur la gauche, Saint-Bosile, et tout en face, là-bas, on devine Venède. Alors le truc de Balduc, c'est un site qui est protégé, c'est un site inscrit pour la qualité de ses paysages et aussi pour la richesse des fossiles que l'on voit dans les terres bleues juste en bas. Donc ces terres bleues sont des marnes sur lesquelles on trouve énormément de fossiles et de richesses géologiques.
On a pareil sur les hauteurs de Sénaré, de l'autre côté du versant, à côté de Mende.
Oui, on en a plusieurs en Lozère, hein, de ces terres bleues. Ici, ce qui est assez beau, c'est qu'elles sont vraiment en rupture de pente par rapport au truc de Balduc. Et c'est vraiment une assez belle beauté sur le paysage.
L'accès pour parvenir à ce château, Caro ?
Donc du coup, on traverse le village de Montialou, qui est le village qui est accrochée un petit peu avec le château. Donc les deux fonctionnent ensemble. Comme on va le voir, le village finalement s'est implanté dans un endroit qui n'est pas forcément favorable d'un point de vue de l'ensoleillement. On est contre le Causse Sauveterre, pas forcément des mieux orientés. Mais ce qui explique l'implantation du village, c'est l'implantation aussi du château.
Voilà, j'imagine que Nelly nous en parlera après. C'est un peu comme le château de Saint-Julien du Tournel. On a l'impression qu'il a été mis à un endroit qui n'est pas propice à la vie, hein, où il fait froid, il y a du vent, il fait sombre. Mais j'imagine que tu nous le diras par rapport à l'historique du château, Nelly.
Oui, bah, juste effectivement, pour rappel, une fois de plus, ce site qu'on visite va nous ramener à la baronnie du Tournel, comme tu l'as bien dit. Juste rappeler que la baronnie du Tournel est divisée en 5 mandements au Moyen-Âge, dont le mandement de Montialoux. Alors un mandement, c'est quoi? C'est une division du territoire qui va permettre de faciliter la levée des droits et d'administrer le territoire et de le protéger aussi de manière efficace, on va dire. Donc le château de Montialoux est construit au-dessus de la rivière du Bramont et permet par sa position stratégique de surveiller l'entrée du Val d'Aunès depuis la vallée du Lot, de contrôler la montée de Montmira et de faciliter, comme je le disais, la levée des droits sur cette partie de la seigneurie. Il est aussi directement en contact avec le domaine épiscopal qui s'étend dans la vallée du Lot, on en avait déjà parlé, puisque l'évêque a un château directement à Balsièges. Donc il est là aussi pour contrôler son territoire face à celui de l'évêque. Et donc, comme le disait Caro, on passe par le village de Montialoux, ce qui veut dire qu'on est ici sur un castrum, c'est-à-dire un château auquel est associé un village qui devait être un petit peu fortifié lui aussi.
C'est la même disposition que sur le Tournel, où on avait aussi ce castrum, le village et le château.
Donc on sécurise, avant toute chose, on cherche à sécuriser la route, à sécuriser l'endroit, c'est ça?
Exactement, voilà, on comprend, on est sur les hauteurs, on a une position vraiment dominante sur la vallée du Val d'Aunès, donc ça va permettre vraiment une surveillance efficace de tout ce territoire.
Et Caro, tu nous disais que les chemins passaient par la crête à cette époque?
Oui, on avait la RN 106 n'existait pas au début, donc on avait plutôt des chemins qui venaient se positionner voilà, en milieu de crête. Enfin, en tout cas, on accédait par le château. Il y avait deux accès possibles, donc par le nord, et ensuite deux accès par le côté du village de Montialoux et un peu plus loin par ici.
Et alors juste pour terminer sur quelques généralités sur le site, donc ce qu'on a déjà évoqué aussi pour nos visites à la Nuéjol notamment, c'est que le Val d'Aunès est occupé dès l'époque gallo-romaine. Hein, vraiment, toute cette vallée se caractérise par une forte occupation à l'époque gallo-romaine. Et donc, Montialoux n'y échappe pas. On a retrouvé des traces de tégulés et de briques de cette époque ici sur le site. Et d'ailleurs, voilà, certains disent que Montialoux voudrait dire le mont aux tuiles. Donc voilà, il faut juste se rappeler que le site est fréquenté bien avant la construction du château.
Peut-être vous préciser, donc la construction du château, c'est un château du Moyen-Âge hein, qui a été transformé par la suite, mais on est vraiment dans la même temporalité que le château du Tournel.
Un château du Moyen-Âge, est-ce que tu en peux préciser un peu plus la date, Nelly?
Alors, un château qui remonte au XIIe siècle, mais comme on va le voir pendant la visite, il a été extrêmement remanié par les propriétaires qui se sont succédés. Et aujourd'hui, bon, il est à l'état de ruine, mais il reflète davantage peut-être le XVIIe, voire le XVIIIe siècle. Mais voilà, les premières mentions, c'est XIIe siècle.
Donc peut-être pour maintenant, on a fait la lecture du paysage lointain, on peut se rapprocher un petit peu. Donc là, on est sur la cour du château. On y accède par le porche qu'on a juste à côté de nous. On n'est pas passé par là, nous, mais on peut accéder sous le porche. On accède à cette grande cour. Le château est positionné un petit peu sur un mamelon calcaire, sur une petite butte. Et on voit que l'enceinte principale, elle suit vraiment la topographie du rocher. On a côté nord, donc un pigeonnier, qui est le premier bâtiment que l'on voit en arrivant. Ensuite, on voit cette enceinte et avec une chapelle, la cour principale, ensuite le logis avec la tour dans le fond. Et l'espace extérieur a également d'autres terrasses qui laissent peut-être supposer une enceinte un petit peu plus large, mais dont on n'a plus la trace aujourd'hui. Ça va être difficile de vous présenter de manière très précise l'histoire de ce château, car en fait, il y a eu très peu d'études sur ce château-là. Il n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Il n'y a pas eu de recherche archéologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît finalement très peu ce bâtiment, comment il était précédemment. Il n'y a pas eu de plan historique, de recherche historique qui permettent de vraiment comprendre l'ampleur du site. C'est un site également qui est privé. Donc quand on vient, on fait attention. Et c'est un site qui peut être dangereux, puisque comme on l'a dit, le château est en état de ruine. Donc il faut faire très attention lorsqu'on se promène dans ce lieu-là.
Voilà, tu dis on voit un pigeonnier, on imagine un pigeonnier, parce que c'est vrai, d'autant plus qu'il y a de la neige là, c'est compliqué d'observer. Alors, c'est un peu plus facile quand il n'y a pas de neige.
Alors on voit bien le pigeonnier quand on est sur la partie basse. Et tu vois là, au-dessus de la neige, donc de la partie qui devait être certainement la chapelle, on voit un petit toit effondré. Donc ça, c'est le pigeonnier. C'est le premier bâtiment que l'on voit en arrivant depuis le village. Mais là, c'est vrai qu'avec la neige, on a pris des chemins de traverse.
Donc c'est un site, il faut faire attention. C'est un site qui est en ruine. Ça peut être dangereux.
Oui, ça peut être dangereux. C'est un site qui est en ruine. Donc on n'y vient pas n'importe quand, n'importe comment. Voilà, il faut être quand même relativement prudent. Et c'est un site privé.
Donc il y a eu des recherches, mais qui datent maintenant du 19e siècle, début 20e. Ce qui est bien avec ce château, c'est qu'il fait partie de la baronnie du Tournel, qui est une baronnie qui est extrêmement bien documentée, puisque une des plus puissantes du Gévaudan. Donc on a quand même beaucoup de documents qui citent le château de Montialou. Mais ce qui manque, c'est une vraie étude archéologique du bâti, pour essayer de dater les différents éléments qui sont encore bien conservés. Mais donc voilà, on a quand même des mentions du château tout au long des différents siècles, dès le XIIe siècle. On sait que le château reste dans la famille du Tournel jusqu'au XVe siècle, siècle où la baronnie se désagrège. Et puis après, le château va passer dans les propriétés de branche cadette en fait, hein, de la baronnie du Tournel.
Il n'est pas laissé à l'abandon comme celui de Saint-Julien du Tournel quand la baronnie part au château du Boy. Celui-ci, il va perdurer, il va se donner de génération en génération.
Oui, il va perdurer et ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il sert de résidence jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'en 1782. C'est les mentions qu'on a retrouvées. Et puis après, voilà, il est mentionné comme déjà à l'état de ruine au siècle suivant. Donc on peut supposer que jusqu'au milieu, voire fin XVIIIe siècle, il est encore habité. Bon, pour donner quelques dates, donc on sait qu'en 1556, le château échoit à Louise Guérin de Cardeillac, dame de Corsac et de Montialou. Puis, il passe dans la famille de Chavagnac jusqu'en 1786, date à laquelle Charlotte Mautier de Lafayette épouse Chavagnac, sous un feu de le château à Guillaume Perrier, son neveu, qui va devenir donc baron de Montialou. Donc, il passe dans la famille de Lafayette au XVIIIe siècle. Et ensuite, les biens de la famille Perrier, donc Guillaume Perrier, seront séquestrés lors de la Révolution française et par la suite vendus plusieurs fois consécutivement. Et en 1932, l'acte de vente précise qu'il se trouve déjà en état de ruine. Il conserve quand même cependant à cette époque la quasi-totalité de sa toiture. On a des photos de cette époque qui montrent en fait, à quoi devait ressembler le château. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à lire. Mais voilà, il faut imaginer une sorte de maison forte, en fait, hein, plus qu'un château féodal comme on a au Tournel, par exemple.
Oui, c'est vrai que là, on a du mal à lire l'architecture parce qu'on est envahi par la végétation sur les façades. Mais on va rentrer tout à l'heure dans le bâtiment, on va pouvoir voir ces grandes et belles ouvertures typiques du logis sur lequel on va habiter au XVIIe.
Et juste pour ajouter une petite info, donc Madame de Chavagnac de Montialou, donc on a sa pierre tombale conservée dans l'église de Saint-Bosile.
On s'est juste un petit peu avancé au niveau de l'escalier qui a l'air magnifique, qui est rempli de neige qu'on ne peut pas voir. Caro ?
Donc ça, c'est l'escalier qui mène au logis, donc qui est la partie la plus récente en quelque sorte du château. On est sur une partie 16e, 17e siècle. Cet escalier est vraiment monumental. On rentre par cette porte qui est sculptée. Et vraiment, cette partie logis, en fait, c'est tout le château est construit autour de l'espace d'habitation. Donc le logis qui prend tout le côté sud de l'enceinte, la cour face à nous, la chapelle qui s'appelle chapelle Saint-Jean, qu'on ne perçoit plus aujourd'hui parce qu'elle est ensevelie sur tout un niveau, mais on perçoit encore ses murs sur la façade nord. Donc une chapelle avec une seule nef centrale, la chapelle Saint-Jean, côté nord, et donc ce même pigeonnier dont on parlait tout à l'heure, qui est une tour carrée. À l'arrière, on va le voir, il y a également une autre tour, qui est la tour primitive, hein, le logis primitif, que l'on verra tout à l'heure. Donc on va prendre cet escalier monumental, passer par la porte sculptée et arriver à l'intérieur du logis.
Ok, on est à l'intérieur, ça reste quand même assez bien conservé, du moins les murs, c'était des murs porteurs ça, Caro ?
Oui, donc là on a le mur porteur de deux bâtiments, donc face à nous la tour qui était la tour primitive, hein, voilà, on voit cette verticalité. À droite, un premier bâtiment, à gauche certainement un autre bâtiment dont il ne reste quasiment plus rien, et par contre face à nous se trouvait il y a encore quelques années vraiment le bijou un petit peu de ce château qui hélas s'est effondré. C'était un escalier avec ce qu'on appelle une clé pendante. Un escalier à double volet, donc deux volets d'escalier, et au milieu une clé pendante qui était sculptée et qui était vraiment le bijou de ce château du 16e, 17e siècle.
Qui s'effondrait il n'y a pas si longtemps que ça, Nelly ?
Non, il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a une dizaine d'années encore, on pouvait le voir.
Ce qu'on peut voir, Ludo, on voit encore très bien les deux grandes cheminées qui montrent bien ici la fonction résidentielle de ce château. On trouve du coup peu de traces de sa fonction défensive, mis à part l'enceinte. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est vraiment la fonction résidentielle, tout ce château qui a été aménagé vraiment pour y vivre.
Ici, on va retrouver les grands éléments qu'on a dans tous les châteaux au Moyen-Âge, un petit peu après. Évidemment, le logis hein, qui montre la fonction résidentielle, comme l'a dit Caroline, la chapelle et les tours avec l'enceinte. Donc, on a tous ces éléments ici, peut-être plus difficiles à lire, à appréhender qu'au Tournel, mais en tout cas, ils sont bien présents et montrent comment était constitué un château à cette époque-là.
Et ce qu'on peut faire, Ludo, c'est sortir un petit peu du château et monter un petit peu au-dessus pour du coup lire plus facilement toute cette architecture et ce site.
Allez, allons-y. Alors il y a plusieurs pièces à l'intérieur, dont deux qui sont assez bien conservées. Vous t'es envie hein, d'aller dans une petite pièce. Et là on est dans une seconde un peu plus grande qui doit être côté ouest.
Oui, c'est une pièce qui est côté ouest. Oui, donc alors du fait qu'il n'y ait pas eu de recherche vraiment archéologique, on ne sait pas exactement quelles étaient les fonctions de chaque pièce. Par contre, ce qu'on peut remarquer ici, c'est vraiment l'architecture cossonarde, cette construction en voûte qu'on a déjà vue plusieurs fois. Le château est construit, pour le préciser, parce qu'on n'a pas encore dit, à calcaire et également un petit peu en tuf. On voit ici l'encadrement de la grande porte en tuf, donc une pierre assez facile à tailler. Et ici, une magnifique voûte en berceau en calcaire.
Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on a certaines parties du château qui sont directement construites sur le rocher. Autre caractéristique de nos châteaux en Gévaudan, on l'avait vu au Tournel notamment, on va directement poser le château sur le rocher qui va être un petit peu aménagé pour ça.
Allez, on est un peu redescendu là. On se trouve où, Caro ?
Donc là, on est sous la chapelle. À notre gauche, nous avons le pigeonnier. Et ce que je voulais te montrer, c'est à quel point on lit encore l'architecture par les façades. Il ne reste plus les murs, mais on devine par exemple sur l'élévation de la chapelle, la hauteur qu'avait la chapelle. Pareil de l'autre côté, on se rend compte que le logis était sur trois niveaux. avec de grandes ouvertures généreuses, avec des arcs en plein cintre. Et sur cette tour, à l'arrière, des tours avec une voûte en berceau. Donc les façades nous permettent quand même de nous rendre compte de l'importance du bâtiment, de sa hauteur et de son emprise. Et on voit bien ici avec les rochers en face qu'on a vraiment construit le bâtiment en fonction des rochers et vraiment sur ce promontoire calcaire.
Donc peu d'éléments défensifs encore en place. On l'a déjà dit, la fonction résidentielle prédomine. Avec une architecture qui est quand même assez soignée. Hein.
On a de beaux murs en pierre ciselés, taillés. On le voit ici sur la chapelle, on a vraiment des pierres qui ont été taillées pour être assez rectangulaires. Les seules traces défensives que l'on peut un petit peu lire sur la façade arrière, on devine dans un angle ce qui semble être une échauguette. On voit des corbeaux en pierre, on voit cette avancée qui permettrait de dire qu'on avait une échauguette sur l'angle sud-est du logis.
C'est quoi une échauguette ?
Une échauguette, c'est une tour d'angle qui est en fait ménagée sur un angle d'un bâtiment qui est en encorbellement et qui va permettre la défense de deux côtés en fait, du bâtiment.
Et du coup, toutes ces belles façades nous permettent que dans son état actuel, ce château il reste quand même, après le château du Tournel, un témoignage remarquable de l'architecture féodale du Val d'Aunaise.
Et du Gévaudan.
Donc ça y est, on est descendu du château, on est dans le village, hein, on pourrait dire le nouveau village, j'imagine.
Non.
L'ancien village était aussi situé ici ?
Ah oui, oui, oui. On est donc dans le village de ce fameux castrum dont on a parlé. Aujourd'hui, il y a à peu près 13 habitants à l'année qui vivent à Montialou. Quoi dire de plus ? Simplement que le village de Montialou a été racheté à la fin des années 70. Suite au capotage d'un projet d'hôtel-restaurant sur le village, la SAFER a vendu en fait l'ensemble du hameau, enfin en tout cas a permis à des particuliers d'acheter le hameau et de s'y installer. Donc dès 1979, le village a été réhabilité pour être habité par une dizaine d'habitants. Ce qu'on sait, c'est que ça faisait au moins 5 ans qu'il était déserté, ce village, et qu'il n'y avait ni l'adduction d'eau, ni la route goudronnée fin des années 70. Et ça, la mairie va le faire directement pour que les nouveaux habitants puissent vivre de manière relativement confortable ici.
Ce qu'on peut dire sur le village aussi, c'est que c'est un village assez classique, c'est un village qui est assez dense. On n'a pas vraiment de rue principale, c'est vraiment des petits sentiers qui permettent d'aller d'une maison à l'autre. On retrouve bien sûr les caractéristiques des villages, c'est-à-dire un four à pain qu'on voit juste là. À l'entrée du village tout à l'heure, on a vu une très très belle fontaine qui est assez remarquable. Et on voit voilà, l'ensemble de ces constructions. Il y a un petit peu de tout, on a à la fois du calcaire, du tuf, des losses de schiste, on a vu également de la losse calcaire. C'est assez bien rénové. Voilà.
Il y a une actualité sur ce village, sur ce château ?
Alors l'actualité, c'est qu'il y a un projet depuis un an de sentier de découverte sur la commune de Saint-Bosile, dont un sentier autour du château de Montialou, donc qui permettra de faire une petite randonnée d'accès assez facile, tout en ayant quelques petites données historiques et architecturales sur le château.
On a une anecdote ?
Oui, alors pour briller en société, Ludo, sache que a été tourné ici au moins deux perles cinématographiques, j'ai envie de dire. D'abord le film Blanche de Bernie Bonvoisin qui est sorti en 2002 avec Lou Doyon, Roche Dizem et Antoine Decaune, si je me trompe pas. Et puis bien avant ça, pas mal de Lozériens doivent s'en souvenir, la fameuse série Guillaume Tell qui a été tournée en Lozère, enfin une partie en Lozère, une partie en Auvergne. Mais en Lozère, beaucoup d'épisodes ont été tournés. C'était dans les années, on va dire, 87, puisque la série est sortie dans ces années-là. Et donc beaucoup de Lozériens ont participé, ont tourné dans Guillaume Tell. Et donc un épisode a été tourné ici.
Ben merci beaucoup pour cette visite encore enrichissante. Le mois prochain, on va aller vers où ?
On va vers la vallée du Lot. On va direction un petit peu le soleil.
Le soleil, l'eau, et on va un petit peu plus à l'ouest du pays d'art et d'histoire. même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.